Je suis Margot. J'habite en milieu rural, dans la vallée de l'Allier. Et depuis plusieurs années, j'ai pour projet d'accueillir un jeune placé chez moi, sur des temps de répit. Cette forme d'accueil alternative, qui est à la marge par rapport à toutes les autres solutions de placement qui existent, vient d'un désir de proposer autre chose, un à côté du quotidien vécu par les enfants placés. Un jeune placé, c'est un enfant qui, pour différentes raisons, ne peut plus vivre temporairement ou durablement dans son milieu familial. Il ou elle est alors confié soit à un foyer, dans la majeure partie du temps il s'agit de maisons d'enfants à caractère social, soit à une famille d'accueil, ou enfin à d'autres structures d'accueil qui sont plus minoritaires. En France, c'est l'aide sociale à l'enfance, ou ASE, qui est en charge de protéger les enfants ou les adolescents-adolescentes lorsque leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur développement sont en danger ou risquent de l'être. C'est un service public, départemental, dont les mesures de placement concernaient 225 000 personnes en 2025. Ce podcast ne cherche pas à opposer des alternatives à l'aide sociale à l'enfance. Les lieux et les personnes que je vais rencontrer font d'ailleurs souvent partie de ce même écosystème de protection. C'est un podcast qui parle de mon cheminement personnel pour construire un type d'accueil à la maison. Avec une question qui m'intéresse particulièrement, quelles conditions permettent de prendre soin autrement de ces enfants? Bienvenue dans le premier épisode du podcast « Moi, future accueillante », enquête personnelle et rurale d'un accueil social en devenir. J'ai d'abord voulu rencontrer un lieu de vie et d'accueil. Je me suis intéressée aux LVA parce que ce sont des structures de petite taille et que je sais qu'elles offrent un cadre de vie se rapprochant d'un environnement familial. Cette particularité, je suppose, permet un accompagnement des enfants plus individualisé. Le lieu de vie et d'accueil que j'ai rencontré s'appelle Lisière. Il se trouve au nord de l'Auvergne, dans l'Allier, dans le bourg de La Palisse, une commune d'un peu plus de 3000 habitants, située entre les plaines de la Sologne bourbonnaise et les hautes terres de la montagne bourbonnaise. Lisière est un jeune lieu de vie et d'accueil, qui dispose d'une autorisation pour l'accueil de 5 enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance depuis août 2024.
Eh bien, bienvenue Margot, voici le lieu de vie d'accueil Lisière dans notre grande maison. Je t'en prie pour la suite de la visite dehors. Quand on est arrivé au lieu de vie, il n'y avait pas de potager, et du coup comme tu peux voir on s'est fait un humble potager qui est quand même assez grand. Donc c'est plutôt chouette pour les enfants de pouvoir venir fouiller un petit peu, notamment quand on récolte, c'est le moment qu'ils préfèrent. Mais du coup, au rez-de-chaussée ici, c'est plutôt les espaces privatifs des adultes. Il y a d'un côté mon appartement et de l'autre côté, c'est le studio de l'Allier et Maëlle, avec la chambre de Lison, qui est leur fille et qui vit pour le coup ici, parce qu'elle est encore au lycée. Voilà. Je te laisse me suivre et monter ces longues marches et interminables marches de cette maison. Donc là, on arrive sur l'espace commun. Donc en face, on a, on va dire, salon pour les adultes et salle de jeu pour les enfants. Donc voilà, où les enfants passent la plupart de leur temps. C'est la cuisine. endroit où on passe aussi pas mal de temps. Avec la grande table, parce que des fois, effectivement, on peut être 10 autour de la table, voire plus. Donc c'est pas mal d'avoir une grande table.
Est-ce que tu peux te présenter et expliquer un peu ton rôle dans le lieu de vie et d'accueil ?
Du coup, je m'appelle Élie Gouantouane, j'ai 23 ans, je suis actuellement permanent responsable du lieu de vie et d'accueil Lisière. Je suis arrivé il y a un peu plus d'un an, donc je ne suis pas fondateur, mais je fais partie des premiers à être arrivé. Et du coup, à la suite d'un CDD de 6 mois, j'ai signé un CDI. Et j'ai donné mon accord et motivé mon choix de devenir permanent responsable, qui donne un statut de cadre aujourd'hui dans la structure. Donc le LVA Lisière, il accueille des enfants de 2 à 10 ans. C'est une volonté d'accueillir des plus jeunes enfants, on va dire, que ce qu'accueillent les autres lieux de vie, c'est beaucoup des adolescents. Après, ça, c'est pas parce qu'on a un âge d'accueil de 2 à 10 ans qu'on reste à ça. Par exemple, aujourd'hui, on a un jeune qui a 12 ans, donc qui pourrait très bien rester jusqu'à 18 ou 21 ans. Donc actuellement, on a 4 enfants
On a l'autorisation pour 5 enfants avec une chambre fratrie. C'est un choix pour l'instant d'avoir 4 enfants pour garder une place disponible. C'est un projet qui a été imaginé par Eulalie et Maëlle, qui sont les fondateurs. C'est né d'une volonté commune de pouvoir ouvrir un lieu pour des enfants, enfin pour que ça puisse être accepté, qu'ils puissent accueillir des enfants concrètement. Ils ont dû, Eulalie et Maëlle, écrire un projet qui était du coup plutôt imaginaire, qu'ils ont pu déposer au département pour avoir cette autorisation d'ouvrir et d'accueillir des enfants et d'en avoir la responsabilité, ce qui n'est pas rien.
En effet, pour ouvrir un lieu de vie d'accueil, je sais qu'il est nécessaire d'avoir une autorisation, et que cette autorisation, elle est délivrée par le président ou la présidente du conseil départemental dont le lieu dépend. Conformément au code de l'action sociale et des familles, cette autorisation, elle atteste de l'adéquation du projet avec les exigences légales et réglementaires qui sont applicables à tous les établissements sociaux et médico-sociaux.
Et du coup, c'est aussi un engagement assez fort personnellement, car Lali et Maëlle ont dû, avant la création de l'association, acheter le bien, acheter la maison. Ils ont fait longuement des travaux pour l'aménager, pour accueillir ses enfants. Et du coup, après, c'est passé sur un statut associatif.
Pour comprendre plus finement ce que sont les lieux de vie et d'accueil, j'ai interrogé également Benoît Aumont. Benoît et sa compagne Dominique ont ouvert également un lieu de vie dans l'Eure, le Dôme Amour, en 2008. Il s'est spécialisé dans l'accompagnement de jeunes femmes adolescentes qui sont mamans précocement. Dans notre entretien qui s'est déroulé à distance, je lui ai demandé de m'expliquer quelles sont les particularités des LVA.
Il n'y a pas un seul lieu d'accueil qui ressemble à un autre. Il y a des généralités, bien sûr, mais chaque lieu d'accueil est différent. Mon lieu d'accueil, avec Dominique, il rentre dans un projet de vie, un projet de vie personnel. On a eu envie de s'engager là-dedans. Le désir des porteurs de projets de lieu d'accueil, c'est vraiment de faire du travail individualisé auprès des jeunes accueillis dans une petite structure. C'est quelque chose qui a donné des résultats, qui a été expérimenté par de nombreux pédagogues. Hein. Le partir de l'enfant plutôt que de partir de la commande publique. Comment on peut être un enfant en évolution comportementale et développementale et au niveau humain, comment on peut se développer sans attachement? Il faut de l'attention, j'allais dire même de l'amour. Alors un amour qui n'est pas un amour sexué, bien évidemment, mais un amour humain qui est nécessaire. Il n'y a pas de grandissement sans amour. Voilà. Donc les lieux d'accueil, ils ont tenté ces expériences de l'individualisation de cet accompagnement et de l'attachement que l'on peut avoir avec ses enfants. Et on a pu constater, depuis le temps que les lieux d'accueil existent, que la plupart d'entre eux, la plupart des enfants accueillis dans ces lieux d'accueil sont bien insérés dans la vie sociale aujourd'hui. C'est contrairement à ce qui se passe dans les institutions où des statistiques assez récentes ont dit que près de 50% des enfants accueillis par l'ASE à un moment de leur vie, sont aujourd'hui dans une errance sociale. Voilà. L'institution, évidemment que ça produit des bons résultats, sûrement, mais ça produit aussi des enfants qui deviennent des adultes complètement désocialisés. Donc l'expérience des lieux de vie d'accueil prouve que quand on fait cela, eh bien, quand on fait un accueil très individualisé, eh bien, on obtient des résultats sociaux et politiques beaucoup plus bénéfiques pour tout le monde. Voilà. La thérapie institutionnelle, ça consiste à considérer globalement que l'ensemble de l'institution est thérapeutique. Donc les lieux d'accueil, ils revendiquent ces principes thérapeutiques que sont cette organisation d'un petit cadre, d'un petit groupe de professionnels qui accompagnent un petit groupe d'enfants. C'est autour de ça que l'évolution de l'enfant va être facilitée. C'est parce qu'il se sent pris en soin dans sa globalité et non pas comme un fou, Voilà, la plupart des lieux d'accueil, au début en tous les cas, accueillaient des enfants qui sortaient des hôpitaux psychiatriques. On les considérait comme des fous, ces enfants. Mais non, on n'accueille pas des fous, on accueille des enfants qui ont des troubles, mais pour autant, ils ne sont pas fous. Voilà, donc on parle de ce principe thérapeutique des lieux de vie d'accueil comme étant une des valeurs fondamentales des lieux d'accueil.
Ce que je retiens des lieux de vie et d'accueil, ce n'est pas seulement leur petit effectif. C'est surtout l'importance accordée à la prise en charge individualisée. Celle-ci s'appuie sur deux besoins fondamentaux des enfants placés. Pouvoir construire des liens d'attachement stables, indispensables à leur développement, et bénéficier d'un accompagnement thérapeutique intégré au quotidien du lieu de vie. Je perçois que créer un lieu de vie ou décider d'y travailler, ça relève d'un engagement fort pour la prise en charge des enfants et des ados. Et je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qui a poussé les membres de Lisière à vouloir se lancer dans cette démarche.
Moi, je m'appelle Sarah Douillard. Je viens ici en tant qu'assistante permanente et j'interviens sur tout le pôle éducatif. Je vis pas sur place à l'année. Je suis là pour une période donnée et sur mes temps de repos, je suis ailleurs. Ben, moi, j'ai eu la chance que assez tôt dans mon parcours de formation, il y ait un intervenant qui est permanent dans un lieu de vie, qui vienne nous parler de ce que c'est les lieux de vie et d'accueil. Voilà, de comment il le vit. Moi, ça m'a assez séduite, mais j'étais déjà en apprentissage engagée ailleurs, dans un foyer, un centre départemental de l'enfance, et qui faisait aussi de l'accueil d'urgence, dans lequel je me plaisais. Mais petit à petit, je m'y suis de moins en moins retrouvée, et je pense aussi que les difficultés dans la structure ont pris de plus en plus de place. Bon, il y avait beaucoup de turnover, donc il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je m'y suis un peu perdue, ça m'a usée très vite, en fait, alors que je me pensais imbattable, enfin, un truc comme ça, inébranlable, et puis en plus, je voulais aller dans des structures qui dysfonctionnent en me disant que ça sert à rien d'aller travailler quelque part où ça fonctionne, parce que tu n'apportes rien, tu ne sers à rien. Bon, après, la remise en question fait que ça sert à rien non plus de s'épuiser et de pas trouver de sens dans ce que tu fais ou de participer à des pratiques que tu trouves un peu maltraitantes, voire complètement, que presque tu as l'impression de cautionner un truc. Et puis j'apprenais plus rien, de façon, j'étais à la fin dans une situation de surveillance, quoi. Donc ça avait rien à voir avec ce que je voulais faire. Je me suis dit que c'était bien de finir ma formation dans un endroit où j'y crois déjà et où je sais que je vais trouver plus facilement ma place. Donc j'ai atterri dans un lieu de vie et d'accueil pour finir mon apprentissage. Et j'ai découvert tout un tas de pratiques. Et puis, on accueillait plein de situations très différentes. Donc ça m'a permis d'explorer beaucoup, beaucoup de choses sur cette période de formation. Donc c'était vraiment très enrichissant.
Je me reconnais dans l'expérience de Sarah, la critique qu'elle en fait et son envie de trouver du sens dans son travail au quotidien. Justement, je me demande à quoi ressemble un quotidien en lieu de vie? Quelles sont les pratiques dont parle Sarah?
Donc je m'appelle Eulalie Berger et donc je suis l'une des deux fondatrices du LVA Lisière. Donc je suis là depuis le début, donc maintenant je suis responsable avec deux autres personnes du LVA. Et je suis responsable thérapeutique du lieu de vie. Pour moi, les moyens du bord qui sont déjà importants, c'est le lien du quotidien, pouvoir prendre en compte la parole des enfants, leurs difficultés, nous être dans une écoute qui est active de leurs difficultés, de leurs symptômes, et tout ce qu'on peut proposer dans le quotidien, c'est-à-dire un jardin, des animaux. C'est aussi... aller en forêt et prendre l'air pur et puis voir ce que ça nous fait émotionnellement. C'est aussi faire de l'art, dessiner, mais aussi aller voir de l'art. C'est tout ce qu'on a comme outil éducatif à notre portée et qui ont des effets. Notre outil que l'on utilise beaucoup, c'est les livres. Là, on a beaucoup de livres, on va beaucoup à la bibliothèque, on imagine beaucoup d'histoires et en fait, tous les enfants... quand ils arrivent, ils nous disent qu'on les livre pas trop et finalement, assez rapidement, ils deviennent tous des fervents lecteurs.
Est-ce que tu peux parler de ce lien aux animaux? Qu'est-ce que ça apporte et quel est le lien que tissent les enfants avec les animaux?
Je pense qu'il y a quelque chose au niveau du toucher qui est absolument évident, c'est-à-dire qu'ils ils vont farfouiller de la fourrure et caresser, et ça c'est une expérience au niveau de la perception. Puis alors ils arrivent aussi à caresser les poules, donc ils caressent, il y a déjà ce contact-là, et en plus il y a une nécessité de prendre soin. Nous on leur demande aux enfants, c'est eux qui nourrissent, c'est eux qui vont chercher les œufs bien sûr, mais qui nettoient aussi avec nous et tout ça, et donc ils sont responsables de la vie. Et ça, c'est une responsabilité qu'ils prennent tout à fait au sérieux, qui fonctionne avec tous les enfants qu'on a accueillis. Les animaux, ils sont là pour dans le lien avec eux, et ils sont dans un lien authentique. Et quand les enfants se rendent compte à quel point le chien les reconnaît, est content de les voir et tout ça, c'est un soutien important. Et puis après, ça reste des animaux, donc il y a des fois où d'un seul coup, le chien va se mettre à courir parce qu'il a vu un chat, et donc ça rappelle le fait qu'il faut quand même faire attention. Donc il y a tout un tas de choses à la fois éducatives, à la fois affectives qui peuvent se passer avec les animaux. Donc toute cette organisation du vivant, elle réorganise le monde, et ça a beaucoup de sens. Et avec les enfants, alors ça pour le coup je pense que ça marche à peu près à tous les âges, mais dans les âges des plus jeunes comme ça, ils sont complètement ouverts à prendre des responsabilités pour aller s'occuper des animaux, et donc c'est chouette. Et je dirais que on a eu plusieurs enfants où quand on tourne le dos, le chien il se fait un peu maltraiter, du coup on peut aussi le reprendre et le travailler et voir ce que ça veut dire et tout ça. Donc c'est tous ces domaines là bon, après c'est un travail, il faut avoir un animal quand même capable de supporter les excès des enfants, et nous-mêmes être capable de supporter que notre animal qu'on aime tant, il va se faire un tout petit peu malmener par ses enfants peut-être, mais aussi recevoir quand même beaucoup d'attention et d'affection.
J'ai également eu besoin de comprendre comment est-ce que les lieux de vie ont vu le jour. D'où viennent ces lieux hybrides situés entre le foyer et la famille d'accueil? Benoît a tenté de me résumer leur histoire.
Le mouvement des lieux d'accueil qui est né dans les années post-68 tard, même si Fernand Deligny, qui est une grande figure des lieux de vie d'accueil, qui a créé son premier lieu d'accueil historique, est né dans les Cévennes pour sortir des jeunes des hôpitaux psychiatriques dans lesquels on avait tendance à les enfermer quand ils présentaient des troubles du comportement. Aujourd'hui, on les appelle, ces jeunes-là, on les appelle des jeunes complexes. Bon, eh bien, les jeunes complexes, autrefois, on avait tendance à les enfermer. Donc, les lieux d'accueil se sont créés du fait de professionnels qui décidaient que ça suffisait d'enfermer ces jeunes dans des maisons de correction, et il fallait les sortir de là, ou les hôpitaux psychiatriques, et il fallait les sortir de là pour leur faire vivre des choses plus simples et plus respectueuses de leur cheminement d'enfant. D'un côté, il n'y avait que des travailleurs libéraux, des gens qui travaillaient sous leur propre nom, et de l'autre côté, il y avait des groupements, des gens qui étaient des assistants maternels, d'autres qui étaient des tiers dignes de confiance. Pendant toutes ces années-là, tous les ancêtres des lieux d'accueil, ils ont mené leur travail sans réel cadre juridique qui satisfaisait à leur engagement. C'est-à-dire qu'ils vivaient d'expédients, ils n'avaient pas suffisamment d'argent. Voilà, il fallait vraiment avoir la militance chevillée au corps pour pouvoir continuer à faire ce travail. Bon, ils ont travaillé à créer les conditions d'une reconnaissance. Et donc, en 2002, le ministère de la Solidarité nationale a reconnu les lieux de vie d'accueil au travers de la loi du 2 janvier 2002.
Alors bien sûr, l'histoire des LVA ne s'arrête pas là. Depuis 2002, elle s'écrit au fil de l'évolution des lois et des décrets qui viennent structurer leur organisation légale. Je réalise que ce qui me touche également dans les lieux de vie, c'est que la prise en charge des enfants est collective. J'envie cette approche où l'on peut prendre les décisions à plusieurs et analyser ensemble le quotidien. Je me suis adressée à Maël pour qu'il me parle de ce choix d'une expérience collective. Maël Berger, c'est le second cofondateur de Lisière.
Depuis longtemps, on s'investit et on vit dans des collectifs. Moi, j'ai grandi sur de l'habitat partagé, quoi, sur un petit collectif. Et c'est vrai que vivre le collectif, travailler sur les communs, moi, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Et du coup, le projet de lieu de vie, pour moi, c'était aussi l'occasion de réexpérimenter d'autres collectifs, d'autres manières de faire collectif avec des enfants en situation de fragilité et avec d'autres professionnels, donc dans un cadre professionnel. Bon, du coup, c'est un peu tout ça qui nous a donné envie de tenter l'ouverture d'un lieu de vie.
J'ai aussi interrogé Sarah sur ce sujet. Sarah, c'est l'assistante permanente de Lisière, celle qui s'est présentée un peu plus tôt.
Dans ce collectif d'enfants qui ont en plus des âges différents, tu vois vraiment un système d'entraide comme on peut voir des fois dans des fratries.
Là, je m'aperçois que Sarah me répond sur le collectif des enfants. Je suis d'abord un peu surprise, mais je la laisse continuer parce que ce qu'elle en dit est très intéressant.
Ça permet vraiment de travailler leur sociabilisation pour qu'ils soient moins en difficulté à l'école, etc. Et c'est souvent des enfants qui ont appris... de manière particulière et des fois empreinte de violence à sociabiliser, donc ça permet de réapprendre autrement. Et puis voilà, ça permet plein de belles choses que permettent le collectif de manière générale. Après, oui, j'en vois, y en a un frein, il y en a une contrainte qui est dans un collectif, ça se renouvelle, surtout avec des enfants qui grandissent et en plus qui sont dans une situation de placement qui est temporaire. Et du coup... tu découvres régulièrement des nouveaux enfants qui ont un parcours de vie difficile et donc des fois qui arrivent, ou des fois il y a un relent, des fois traumatique ou autre, qui bouscule beaucoup de choses chez eux et qui vient perturber le collectif. Et en fait, le risque, c'est aussi des fois que des enfants qui pourraient être dans une situation stable et qui ont besoin de stabilité peuvent être perturbés par l'arrivée d'un nouvel élément, et d'ailleurs que ce soit un enfant ou un adulte aussi. Ça vient, ça crée du turnover, si on peut dire ça comme ça, aussi bien au niveau des enfants que des adultes. Ça a ses avantages parce que tu fais des rencontres. Des fois, ça permet tout l'enrichissement lié à la nouveauté, et des fois des rencontres qui te plaisent, mais aussi des fois des rencontres qui te déplaisent. Il y a deux types d'outils, je dirais. Il y en a un qui est l'assemblée. Donc c'est un peu la réunion des enfants. C'est un peu l'équivalent du conseil de vie sociale de la loi. Sauf que nous, on le fait toutes les semaines. On leur apprend à s'écouter. Et donc, c'est un temps où on va venir parler chacun de comment on se sent, pour aussi prendre en compte où en est l'autre, ce qu'il y a comme gros enjeu des fois dans sa vie, qui le travaille. Parler des difficultés du vivre ensemble, ou à l'inverse de ce qu'on a adoré dans le vivre ensemble, des moments qu'on a partagés. Et malgré des enfants qui sont assez jeunes, notamment le petit bout de 3 ans et la demoiselle qui a 5 ans, donc qui en a connu des assemblées, ben, tu vois que ça rentre petit à petit et qu'en fait elle y trouve son compte dans les assemblées, qu'elle arrive à exprimer ses difficultés, qu'elle arrive à exprimer quand elle se sent pas bien, que les grands qui sont arrivés il y a pas si longtemps, et ben là, la dernière assemblée, on a une jeune qui a 8 ans et qui dit c'est trop bien les assemblées, on peut parler de tout. Et en plus tout le monde écoute. Bon ben, objectif atteint, c'est quand même chouette. Et après, pour travailler sur le collectif en individuel, chaque semaine les enfants ils ont des entretiens individuels avec l'un de nous, ce qui permet bon, soit de parler de leur situation familiale, etc., soit, dans l'idée idéale, c'est eux qui amènent ce qu'ils veulent. Donc c'est soit parler de ce qui se passe ici, soit à l'école, soit en famille. En gros, c'est les grosses thématiques. Et du coup, c'est là qu'ils peuvent parler de leurs difficultés avec, des fois, c'est juste un enfant, des fois, ça peut être un adulte, des fois, c'est le groupe. Et c'est là qu'on peut travailler des choses plus individualisées, mais sur ce qui se passe dans les relations sociales et dans le collectif.
Parfait. Allez. T'as qu'à enlever ceux qui n'ont pas de couleur dans la boîte, là. Vas-y. Là, et là, 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 là.
Les adultes aussi sont organisés en collectif. Il et elle se réunissent toutes les semaines pour discuter des situations des enfants et de leurs évolutions. Ils se reposent aussi sur un collectif national de lieux de vie, le GERPLA. GERPLA, c'est pour Groupe d'échange et de recherche pour la pratique en lieu d'accueil. Benoît Aumont, que l'on a entendu parler tout à l'heure, en est l'un des coordinateurs. Et il m'a expliqué quelle est l'approche particulière de ce réseau.
Chacun des acteurs adhérents au GERPLA sont adhérents aux valeurs du GERPLA. Et les valeurs du GERPLA, elles sont émises au travers d'une charte qui ne change pas tous les 4 matins. Hein. On dit dans cette charte, bien qu'assurant une fonction globale d'insertion et de socialisation, les lieux de vie et d'accueil sont conscients que les phénomènes d'exclusion et de marginalisation qu'ils aident à combattre ne sont pas uniquement le fruit de causes individuelles d'ordre psychologique ou familial. Ils sont aussi le résultat de mécanismes sociaux et économiques que les lieux de vie et d'accueil veulent dénoncer en relevant le défi d'être acteur de réparation sans être complice. Pour cela, il s'implique dans la vie associative et civique. Le lieu de vie d'accueil est un projet politique. Voilà, ce qui caractérise le GERPLA, c'est que l'on revendique d'être un projet politique. Alors un projet politique au sens large du terme. On n'est pas dans une petite entreprise individuelle qui se développe et qui fait travailler des salariés éventuellement avec nous et qui génère de l'argent et qui génère des choses comme ça. Non, c'est utile, il faut passer par là, bien évidemment. Moi, j'ai un statut de gérant d'entreprise avec Dominique. On a été responsable d'une équipe de salariés qui a pu aller jusqu'à 10 personnes. Il y a eu plein d'évolutions qui se sont faites sur le long cours et qui ont nécessité que pour ce développement ait lieu, le Demamour se soit développé au point de devenir une petite entreprise. Mais cette petite entreprise, elle n'avait qu'un but, c'était d'être au service de la réhumanisation de ces jeunes. Voilà, donc la principale qualité des lieux de vie d'accueil regroupés au sein du GERPLA, on a utilisé ce mot-là quelquefois, c'était l'autogestion, c'est-à-dire en équipe, comment on développe notre entreprise au service du projet et non pas au service du gérant. Et puis, la deuxième qualité, c'est évoquée au travers de l'article 2 de la charte, c'est l'utopie. Cette utopie, elle est dans le rêve de ma tête de petit enfant traumatisé. Je me suis dit qu'il fallait... j'ai rêvé d'une autre façon d'accompagner ou d'être accompagné en tant qu'enfant. Eh bien, j'ai tâché de mettre cette utopie au service des enfants que l'on a accompagnés et des mamans que l'on a accompagnées. Aujourd'hui, le GERPLA, il a une petite baseline qui dit « collectif de réflexion et d'action ». Le GERPLA, il est un collectif. On réfléchit ensemble, on échange et on recherche ensemble. On n'est pas des individus isolés dans notre coin, pouvant prétendre être le Deus Machina. Non, on a aucune science infuse. Et c'est de notre collectif que naissent les valeurs que l'on met en application. Et pour cela, eh bien, on s'impose des évaluations, on s'impose des supervisions, on s'impose des évaluations de pratiques professionnelles. Voilà, on s'impose tout un tas de choses qui nous permettent de réfléchir sur notre action. Voilà, ça, ce sont des obligations. Aujourd'hui, quand on est adhérent au GERPLA, on doit s'imposer une supervision professionnelle. On ne peut pas travailler tout seul. Voilà, ça, c'est une nécessité.
Comment est-ce que ces valeurs se traduisent au sein même du lieu de vie d'accueil Lisière?
Moi, je pense que c'est important de pouvoir réenchanter la question de l'utopie, de l'engagement social. Pour moi, créer un lieu de vie, c'est proposer un projet d'engagement sociétal qui permette un îlot protecteur. Nous, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire. On a un grand terrain qui est clos, qui symboliquement vient assurer un espace de protection pour les enfants et d'expérimentation, mais qui est au cœur du village et qui est dans la porosité avec ce qui peut se nouer sociétalement. On peut inviter des amis, de la famille, des amis des enfants. Les familles des enfants, des fois, peuvent venir au lieu de vie sous certaines conditions. Et je pense que c'est un peu à l'image de ce qu'on essaye de faire, c'est à la fois d'arriver à se décaler suffisamment de ce qui nous est proposé de façon très, très massivement dans des injonctions au travail, à la productivité, au consumérisme, se décaler de ça, mais sans faire coupure avec la société. Parce que je trouve que c'est un peu trop facile de créer une oasis autonome coupée. C'est peut-être très exigeant aussi, hein, mais moi, en tout cas, je veux pas me déconnecter du monde dans lequel on est. De toute façon, pour les enfants, c'est notre responsabilité de faire en sorte qu'ils soient citoyens. Et donc, d'avoir cette porosité, mais dans un espace où, quelque part, on vient choisir d'aller vers des liens fraternels, travailler les communs, etc. Donc, Moi, je trouve que le lieu de vie, ça permet ça. Ça permet ça dans le lien avec les enfants, ça permet ça dans le lien entre adultes aussi, et ça permet ça à différentes échelles, en fait. On peut imbriquer les échelles de ce qui se passe à l'échelle du village, à l'échelle de la maisonnée, etc.
Comment est-ce que cette vision politique est perçue par les partenaires sociaux avec lesquels le lieu de vie et d'accueil travaille au quotidien ? Notamment avec le département de l'Allier, dont l'autorisation conditionne l'ouverture du lieu. C'est à Eulalie que je m'adresse pour aborder cette question.
Donc, nous, on est dans le département de l'Allier. On peut dire qu'on a quand même été bien accueillis dans le département. Quand on a proposé notre projet, on a été reçus, on a été vraiment accueillis. Ils nous ont soutenus pour construire ce projet, et puis il a été accepté. Et on a gardé ce lien-là qui fait qu'on est vraiment écouté comme une structure. Même on peut participer au niveau départemental quand il y a des moments de réflexion comme sur le référentiel qualité et tout ça. Donc ça, on peut dire qu'on existe sur le territoire. Après, au quotidien, on travaille surtout avec les référents des enfants.
Les référents ASE, ce sont les professionnels de l'aide sociale à l'enfance qui sont chargés de suivre la situation d'un enfant confié au service.
Et donc là, avec les référents des enfants, il y a une vraie demande, c'est-à-dire qu'on a plutôt beaucoup de demandes d'admission pour peu de place, puisqu'on n'a pas tant de place que ça. Et il y a des travailleurs sociaux qui ont identifié qu'on pouvait réfléchir avec eux sur les modalités de prise en charge, sur les modalités de travail avec la famille, sur le lien social et tout ça. Il y a vraiment, entre autres, les dernières admissions qu'on a eues, il y a une demande d'une travailleur sociale qui était vraiment de l'aider à structurer son travail auprès d'une famille. Pour nous, c'était une belle reconnaissance. Et on le dit de manière plus forte aux travailleurs sociaux que bah, nous, on est une institution qui veut réfléchir.
Parmi les choses mises en place par l'équipe pour réfléchir, il y a la psychothérapie institutionnelle dont a parlé Benoît plus tôt. Derrière ce terme un peu impressionnant se cache l'idée que le soin thérapeutique dont les enfants ont besoin ne se limite pas à des temps de thérapie avec des psychologues ou avec des psychiatres. Il peut aussi se jouer dans le quotidien, dans une discussion autour d'un repas, dans le fait de prendre soin des animaux, dans la manière dont les adultes travaillent ensemble ou accompagnent un conflit. Eulalie joue un rôle particulier dans la mise en place de cette approche au sein du lieu.
Donc on a voulu monter un lieu qui tend à la psychothérapie institutionnelle, c'est notre objectif. Après, c'est un lieu qui a 18 mois d'existence, donc qui est encore jeune. Et moi, j'ai une histoire avec la psychanalyse qui remonte à 20 ans. Et je participe à des écoles depuis 10-15 ans. Et donc je continue à faire ça. Et à ce titre, c'est moi qui suis responsable d'organiser des points cliniques lors de nos réunions, et on va dire de réfléchir à chaque situation pour nous laisser justement dans la réflexion, essayer de comprendre ce qui se passe dans le transfert avec les enfants et faire en sorte qu'on soit toujours en réflexion et pas dans une image figée des enfants. Donc évidemment que tous nos projets partent des demandes des travailleurs sociaux, que les enfants sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, et qui a une demande, une ordonnance de placement et tout ça, mais qu'après, les modalités de notre travail au quotidien, il y a des choses qui sont pas négociables. Par exemple, qu'on va mettre en place un projet, qu'on va réfléchir à la situation familiale, qu'il n'y a rien qu'on va mettre sous le tapis en termes d'histoire familiale et tout ça. Il y a un certain nombre de choses que maintenant, on identifie très fort et qu'on arrive bien à poser. Je dirais que c'est un peu quitte ou double avec les partenaires. Hein. Il y a ceux pour lesquels c'est reposant, qui viennent chercher vraiment ça et qui peuvent identifier le fait qu'il manque de structure qui propose ça, et ceux pour lesquels ça fait trop de questions, quoi. C'est pas leur manière de travailler. Donc bah, après, en étant un peu plus connu, bah, on finit par travailler avec des gens qui le cherchent, voilà, et qui ont besoin de pouvoir s'appuyer. Donc là, on commence, par exemple, les travailleurs sociaux, on les invite à nos réunions d'équipe, on partage beaucoup d'écrits avec eux, et il y a quand même, dans l'aide sociale à l'enfance, beaucoup de personnes qui se satisfont vraiment de ça.
Grâce aux propos de Eulalie, je comprends que les engagements du LVA Lisière sont reconnus, au moins par une partie des travailleurs, travailleuses sociaux du territoire, et que le projet est soutenu par le département. Je sais que tous les territoires n'ont pas cette ouverture d'esprit. Nous le verrons dans le second épisode. Cette disparité de traitement est l'une des raisons pour lesquelles certains lieux de vie ont décidé de se regrouper au sein du GERPLA. afin de pouvoir continuer d'exister en tant que lieu d'expérimentation. C'est ce que Benoît m'explique au cours de notre entretien.
Le département duquel on dépend, puisque c'est le département qui donne l'autorisation. Mais le département, il donne l'autorisation pour que l'on se crée et que l'on soit accueillant sans obligation d'appartenance à ce département. Aujourd'hui, moi, j'accueille des enfants qui ne font pas partie du département, mais s'il se passe quelque chose de grave, eh bien, c'est le département sur lequel je suis installé qui va en subir les conséquences. Par un principe constitutionnel qu'on appelle la subsidiarité, c'est-à-dire que le président du département, il est responsable de tous les enfants accueillis sur son territoire. Alors, il préfère bien les connaître, tous ces enfants qui sont installés sur son territoire. Donc, toute cette chaîne de responsabilité conjointe, déléguée, subsidiarisée, fait qu'aujourd'hui, les présidents de département qui sont des élus politiques très exposés, eh bien, ils ont intérêt à ce que tout ça rentre dans des choses très organisées, très centralisées, et les lieux d'accueil dérogent à cette règle de la centralisation et de l'institutionnalisation. Donc le danger auquel on assiste aujourd'hui, c'est que les départements veulent faire rentrer les lieux d'accueil dans les schémas départementaux. Parce que le risque qu'assume un département qui a des lieux d'installation sur son département, mais dont il ne maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants, ça met en danger le politique qui est responsable les conseillers départementaux, qui sont les élus politiques du département, ne veulent pas être taxés de mauvais traitements à enfants, sous prétexte que ce qui se passe dans les lieux de vie d'accueil peuvent parfois être sujets à caution. De l'institutionnalisation des lieux de vie d'accueil, il est, à mon sens, et au sens du GERPLAT, dans un souci de garantie des politiques publiques, et c'est pas en faveur des enfants, c'est en faveur des adultes qui sont responsables de tout ça, et donc c'est pour ça que l'on s'inquiète de la façon dont les lieux d'accueil sont récupérés par les départements et veulent les faire rentrer dans le giron des départements. Voilà, ce serait peut-être plus simple pour eux, mais ce serait plus compliqué pour les enfants accueillis.
La dernière question que je pose à Benoît concerne le rapport d'enquête sur les manquements des politiques d'aide sociale à l'enfance. Ce rapport d'enquête, qui est paru en 2025, donne la parole à d'anciens enfants placés, mais aussi à tout un tas de professionnels de la protection de l'enfance. Personnellement, quand j'ai pris connaissance de ce document qui est accessible en ligne sur le site de l'Assemblée nationale, ses conclusions ont largement participé à ce que je me mette en action autour de mon projet d'accueil. En effet, ce qu'il dit ce rapport, c'est qu'à force de pénurie, d'urgence et de rupture, le système de protection de l'enfance ne parvient plus toujours à tenir la promesse pour laquelle il a été créé, protéger les enfants. C'était important pour moi de connaître le regard que portent les lieux de vie et d'accueil réunis au sein du GERPLAT, sur les manquements que relève cette enquête.
J'ai dit qu'on représentait à peine 2% des personnes accueillies parmi les plus de 300 000 personnes en difficulté du côté de l'ASE, on va dire. Hein, les 300, je ne sais plus combien c'est, 350 000 placements judiciaires ou administratifs. Nous, on représente à peu près 2% de cela. Donc, nous restons très humbles. Évidemment que les politiques publiques aujourd'hui sont en difficulté tant du point de vue de la désertification, on va dire ça comme ça, des professionnels qui n'ont pas envie de s'emmerder à travailler dans des lieux où ils sont sous-payés, enfin pas sous-payés, mais payés un minimum, et corvéables à merci, et nos lieux où nous sommes en plus grande autonomie pour nous organiser, et donc, en effet, on fait un meilleur boulot, mais on n'en fait que 2%. Voilà, donc on peut pas être donneur de leçons à ces grosses institutions que sont les MECS, les foyers, les institutions associatives monumentales quelquefois, qui se rachètent les unes les autres et qui en oublient ce pourquoi ils se créent et ce pourquoi ils sont utiles aux enfants accueillis. On peut pas être donneur de leçons dans le domaine. Voilà, il y a beaucoup de bon travail qui se fait. Donc on reste à notre place. On prétend, et je pense qu'on a raison, on prétend qu'il faut qu'il y ait des lieux où on puisse expérimenter d'autres façons d'accompagner les jeunes en grande errance. Les lieux d'accueil, pour moi, ils n'ont pas d'intérêt pour tous les enfants. Ils ont de l'intérêt pour des enfants particuliers. Moi, quand j'accueille ces jeunes femmes, je les accueille parce qu'il n'existe pas d'endroit où on accueille des jeunes mamans avec leur enfant en quantité suffisante. C'est une singularité qu'il faut prendre en compte. On ne peut pas demander à l'institution de prendre ces singularités-là en compte.
Je pense qu'il y a encore plein de choses à inventer dans les lieux de vie et d'accueil, et que c'est ça qui est trop chouette, c'est qu'il y a une grande liberté de faire, de réfléchir, et qui donne lieu à des choses qui ont du sens, et puis qui laissent la place à plein de travailleurs passionnés, et un travail du coup qui est passionnant. Et que ce serait chouette que ce soit plus développé. Dans la protection de l'enfance, il n'y a pas d'obligation de résultat, qu'on dit, parce que c'est particulier comme travail, et à la fois, t'as quand même une obligation qui est de protéger les enfants, et tu le vois quand il y a des enfants qui présentent tous des signes insécures, et quand dans une autre structure, ils présentent tous des signes d'enfants qui sont sécurisés et qui se posent et qui grandissent. Et quand même, sur les deux lieux de vie et d'accueil que j'ai fait, je vois des enfants qui dorment et qui grandissent et qui sourient. Donc faudrait qu'ils soient tous dans des situations comme ça, ce serait chouette, quoi.
C'est pas possible! Attends. Ah, je l'ai.
Ça fait.
Mmh.
Je repars de cette visite avec des informations cruciales et aussi beaucoup d'inspiration pour la suite de mon chemin. Je pensais que les LVA se démarquaient principalement par leurs petits effectifs. Mais j'ai compris que l'accompagnement individualisé qu'ils revendiquent est aussi permis par une attention accordée aux soins du lien avec les enfants dans le quotidien. Habiter sous le même toit, préparer un repas, prendre soin des animaux, lire une histoire, traverser un conflit, recommencer le lendemain. Comme si le soin aux enfants ne se trouvait pas seulement dans les rendez-vous, les projets, les dispositifs. Comme s'il se construisait aussi, et peut-être surtout, dans toutes ces petites choses qui reviennent chaque jour, et dans la place qui est accordée à leurs paroles. J'ai compris que ce que je partageais avec les professionnels que j'ai rencontrés, c'est la quête de sens, la critique d'une certaine violence institutionnelle et le désir de faire autrement. J'ai aussi découvert que ces lieux ne fonctionnent pas de manière isolée. Certains d'entre eux se retrouvent au sein du GERPLA, un réseau qui défend leur identité, favorise les échanges de pratiques et porte une réflexion commune et politique sur la place des lieux de vie dans la protection de l'enfance. Le réseau du GERPLA n'est pas le seul réseau des lieux de vie et d'accueil. Le réseau FAST Sud Aveyron ainsi que le réseau de la FLNV sont aussi des réseaux importants autour desquels ces lieux se fédèrent pour faire reconnaître leurs pratiques. Leur site internet ainsi que celui du GERPLA sont des mines de ressources pour comprendre ce que sont les lieux de vie et d'accueil. Cette rencontre avec Lisière m'a aussi permis de mettre le doigt sur la nécessité de préserver une capacité d'expérimentation dans l'accueil alternatif des enfants placés, mais que c'est une ambition qui suppose de trouver un équilibre entre les exigences institutionnelles auxquelles les lieux de vie et d'accueil sont soumis et la liberté nécessaire pour faire vivre l'utopie. Je ne sais pas encore bien tout ce que cela dit de mon propre projet d'accueil. Bien sûr, le terme d'utopie me parle énormément. Et pour la première fois, je ne le vois pas comme quelque chose de négatif ou de condescendant, mais plutôt comme un moteur, un cap, c'est quoi l'utopie qui m'anime autour de mon projet d'accueil ? Je repars avec de nouvelles questions. Notamment, je me demande à quoi peut ressembler un accueil qui ne serait pas permanent, mais qui viendrait proposer des solutions de repli pour les jeunes dans les interstices des institutions qui prennent en charge leur quotidien. Qu'est-ce qu'on peut proposer aux jeunes qui leur permettent de sortir des groupes dans lesquels ils sont parfois placés ? Même si cet épisode l'aborde déjà, je suis vraiment très curieuse de creuser davantage l'aspect collectif. Pourquoi et comment faire de l'accueil à plusieurs ? Tout cela, on le verra dans le second épisode. C'était le premier épisode du podcast « Moi, future accueillante ». Enquête personnelle et rurale d'un accueil social en devenir. Un podcast réalisé par Margot Vincent Susoni et produit par l'association La Calligramme. Les musiques utilisées dans cet épisode sont de Sid Acharia et Rasberg. Merci à Eulalie Berger, Sarah Douya, Antoine Héligot et Maëlle Berger du LVA Lisière. Merci à Benoît Aumont du GERPLA pour leur accueil chaleureux et le temps qu'elles ont accordé à répondre à mes questions. Merci aussi à Florian Revol de l'association La Calligramme pour son accompagnement à la réalisation de ce podcast.